Qu'est-ce que c'était ?
Les jeux de la roulotte.
Toi aussi t'as entendu ?
Bien sûr que j'ai entendu.
Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi.
Il y a un joueur qui me fait peur.
Qui ?
Le russe.
Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Lancez les dés pour déplacer votre pion, un double donne le droit de rejouer. Le premier qui arrive au bout a gagné. Tu veux jouer ?
Au revoir ! Ce matin, comme tous les mercredis matins, on retrouve Ghislain de la ludothèque La Roulotte. Salut Ghislain.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, tu nous présentes deux jeux de société, comme à ton habitude. Mais alors on a un jeu qui s'appelle Bubble Stories, qu'on va peut-être pouvoir découvrir, mais il y en a un qui parlera peut-être à un petit peu plus de monde. Il s'appelle Harry Potter, Bataille à Poudlard. Donc là, sur le thème d'Harry Potter, et c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux déjà autour d'Harry Potter. Donc j'ai hâte de découvrir ce que tu peux nous dire sur lui.
Alors, je vais vous dire plein de choses sur cet excellent jeu. Alors, c'est une première, hein, je crois, dans cette chronique, parce que d'habitude, je ne parle jamais de jeux à licence.
Sur des thématiques, en gros.
Ouais, les grosses licences, type Star Wars, Harry Potter, Batman, ça, on n'en a jamais eu. Il faut savoir que nous, en tant que ludothécaires, quand on voit un jeu à licence, il y a 70% de chances, voire 80%, qu'on se dise « c'est vraiment de la mouise ».
Souvent, on peut imaginer qu'il y a le thème en fait, qui porte plus que le jeu lui-même.
C'est ça, c'est le thème qui porte. Hein. Moi, concrètement, qu'est-ce que je m'en moque d'aller jouer à Uno, quoi. Harry Potter, je joue Uno classique, si c'est ça. Hein. Donc voilà. Hein.
Mais c'est pour ça que j'ai hâte de découvrir celui-ci.
Eh ben ouais, parce que celui-là, il est complètement différent. C'est un petit jeu qui va se jouer entre 2 et 4 joueurs à partir de 10 ans. Et les parties, quand même, vont durer environ une heure. Alors, Harry Potter, Bataille à Poudlard, c'est ce qu'on appelle un jeu de deck building. Il est coopératif et évolutif. Allez, on va reprendre les mots ensemble. Hein. Le côté coopératif, ça va, mais le côté évolutif, ça veut dire quoi ? En fait, le jeu, il va tenter de retranscrire, alors je trouve vraiment avec brio d'ailleurs, les 7 années que l'on va passer au sein de la célèbre école de magie Poudlard. On jouera d'abord l'année 1, puis la deuxième partie, on jouera l'année 2, et ainsi de suite. Et en fait, plus on va jouer, plus on va rajouter de matériel. Parce qu'on va rencontrer des nouveaux professeurs, donc on va les rajouter dans les cartes. On va rencontrer de nouveaux monstres, on va les rajouter dans les cartes. On va rajouter de nouveaux méchants qu'on devra combattre, donc on les rajoutera, et ainsi de suite. Le jeu, il est énormément évolutif. Évolutif, et en plus, à la fin, quand on a fini d'y jouer, ça je tiens à le dire, on a juste à remettre tout dans les bons paquets, et c'est bon, on peut refaire l'histoire dès le début.
On repart
à l'année 1, c'est ça. Un petit flashback, retour vers le futur, exactement.
En même temps, c'est sûr que l'évolution, elle est quand même assez importante dans Harry Potter.
Exactement, c'est ça qui est génial, c'est que tes personnages, tu les sens vraiment évoluer quand tu y joues. Nous, on l'a fini déjà 2 fois, hein, pour dire qu'on l'a vraiment apprécié, c'est-à-dire qu'on l'a refait. On va pouvoir jouer Ron, Hermione, Harry ou Neville dans cette boîte. Voilà, donc on peut y jouer jusqu'à 4. Comme je vous le disais, c'est un petit jeu de deck building. Alors, je vais reprendre le principe du deck building parce que c'est un petit peu bizarre. Pour ceux qui connaissent le deck building, le plus connu des jeux de deck building, c'est Magic. Voilà. Mais en gros, le principe d'un deck building, c'est qu'au début de la partie, on va avoir que 10 cartes. Mais vraiment, mais des cartes, mais toutes pourries. On va en piocher 5 à notre tour et on va les jouer. Ces cartes, quand on va les jouer, elles vont nous permettre, par exemple, d'acheter de nouvelles cartes plus puissantes qui sont au milieu de la table. Une fois qu'on les a jouées, toutes ces cartes, on va les défausser et on va les mettre avec celles qu'on vient d'acheter. Puis plus tard, dans la partie, on va repiocher dans notre pioche, et ainsi de suite, jouer, en acheter d'autres, et puis voilà. Et puis, à un moment, je ne pourrai plus piocher de cartes parce que j'en aurai plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que toutes les cartes que j'avais jouées précédemment et celles que j'avais achetées, je vais les remélanger et ça va me refaire une nouvelle pioche. Donc, en fait, le jeu, toutes les cartes que je vais acheter, je vais les réutiliser pour plus tard. Donc en fait, c'est moi qui choisis ce que je vais acheter pour plus tard. Donc c'est vraiment un jeu où on va contrôler vraiment notre stratégie dès le départ. Ça, c'est super important.
Donc en fait, le deck building, on peut dire que c'est un peu cet échange de cartes au début où on va essayer d'avoir...
C'est un principe de jouer des cartes d'abord, en gros, toutes pourries pour pouvoir acheter des cartes un petit peu plus chères. Puis plus je joue, ensuite je vais avoir des cartes un petit peu plus chères que je vais pouvoir jouer pour acheter encore plus cher, et ainsi de suite. C'est le fameux win to win, quoi. C'est, voilà.
Ouais, c'est ça, c'est cette courbe.
C'est cette courbe-là, exactement. Okay. Mais là, c'est coopératif. Dans le but, en fait, il est simple. Il faut réussir ensemble à éliminer les forces du mal avant qu'elles prennent le contrôle d'un certain nombre de lieux emblématiques. En gros, à l'année 1, Il y a Drago Malfoy qui va venir nous embêter. Bien sûr, on va avoir le professeur Quirrell qui va venir nous embêter. Et il faudra faire attention que les forces du mal ne contrôlent pas un certain nombre de lieux. Et comme je vous le disais, à son tour, on va regarder d'abord si les ennemis nous font du dégât. Et si c'est le cas, bah, ils vont soit nous faire perdre des points de vie ou nous faire perdre de l'argent. Puis avec nos 5 cartes, ensuite, ça va être à notre tour de jouer, le tour des joueurs. On va les jouer dans l'ordre que l'on veut. Quand je joue une carte, bah, y en a certaines qui vont me guérir moi ou au contraire guérir mes coéquipiers. Ça reste un jeu coopératif, donc c'est sympa de se parler, de se dire « Ah, ça te ferait plaisir que je joue une carte pour te guérir ?» Ouais, carrément, s'il te plaît, vas-y, parce que sinon je ne vais pas survivre. Quoi.
Mais c'est vrai que bah, c'est aussi là tout le principe de l'école, c'est que les sorciers soient ensemble.
Exactement, non, mais il y a vraiment un côté coopération énorme. Mmh. On réfléchit vraiment aux cartes que l'on va jouer, même si on est limité, on n'a que 5 cartes. Sauf qu'il y a certaines cartes que l'on achète, quand j'en joue une, elle me dit immédiatement « piochez-en deux ». C'est-à-dire que je vais en jouer encore 2 de plus. Donc au début, je vais peut-être jouer que 5 cartes à mon tour. Mais 8 ou 10 manches après, ben, je vais en poser 7 ou 8 sur la table. Donc c'est vraiment un jeu où plus je joue, plus je vais être puissant. Ça, c'est très intéressant. Et bien sûr, les cartes que l'on veut absolument, c'est les cartes avec des pièces, parce que ces cartes avec des pièces, elles vont nous permettre d'acheter des cartes plus puissantes au milieu de la table. Alors si je prends un exemple, je peux acheter Dumbledore, quoi, par exemple. Ah, Dumbledore qui vient m'aider, qui vient me donner à la fois de la vie... De l'argent, des éclairs pour taper les monstres, voilà.
Le roi des sorciers, quoi.
Le roi des sorciers. Ah, mais le gars, dans le jeu, c'est la carte que tu veux. Ah oui, oui.
En même temps, dans le film aussi.
Ah ouais, non, mais la carte qui pèse dans le game, quoi. Elle est vraiment super bien. Alors après, ça va être des cartes du style un balai magique, plein de choses comme ça. Et bref, on va acheter plein de cartes, on va continuer de jouer jusqu'à essayer de mettre tous les ennemis KO. Et si on y arrive, tous ensemble, eh ben, on gagne la partie. Donc là, généralement, première partie, elle va durer 45 minutes. Les deuxièmes vont être un poil plus longues parce que ça va rajouter quelques ennemis. Il va y avoir de nouvelles règles à introduire. Donc voilà, moi, je voulais vraiment parler de ce jeu parce que niveau jeu de deck building, j'en connais pas mal. Mais celui-là, il est coopératif et en plus, il est hyper accessible sur les règles. Ils ont réussi à épurer les règles pour en faire un jeu familial. Mais le thème, il est hyper fort. Il est même immersif parce qu'ils ont réussi à avoir les droits des films. Donc forcément, c'est les images des acteurs, c'est les images du film. Ça aide à l'immersion quand même dans le jeu. Ça, c'est vraiment bien. Donc si vous aimez vraiment Harry Potter, allez-y. Faut tenter ce jeu. Les extensions rajoutent des nouveaux personnages que l'on pourra jouer. Alors, tu peux jouer Luna Lovegood qui est complètement psychée. Ou même Ginny Weasley, c'est trop fort. Elles ont vraiment des pouvoirs intéressants en plus dans le jeu. Et... des règles en plus apparaissent. On va pouvoir faire des potions, utiliser des sortilèges. Donc franchement, plus il y a d'extensions, plus on a envie d'y jouer.
Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment immersif, encore plus avec les extensions. Est-ce qu'il y a besoin de vraiment connaître les films pour pouvoir jouer ?
Non, pas du tout.
Ok.
Pas du tout, non, franchement, ça aide. Si t'es joueur de jeux de société, non, franchement, ça aide pas. C'est vrai que c'est toujours plus intéressant de connaître le film parce que ça te plonge plus facilement dans le jeu.
Oui, on sait déjà que par exemple la carte dont on parlait de Dumbledore, on sait que c'est The Sorcier.
Ouais, c'est une carte hyper puissante, mais c'est pas la plus puissante du jeu, ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres.
J'ai
mais
hâte
ça,
de
je
découvrir.
Peux pas spoiler.
Ah bah non, faut garder un petit peu de surprise.
Ah ouais, c'est à vous de découvrir.
Et quand tu disais une partie égale environ 45 minutes, est-ce que pour toi une partie c'est une année ?
Ouais, une partie c'est une année, c'est ça.
Ouais. Il y a quand même le temps. Bon voilà, on peut quand même passer du temps sur ce jeu.
Ouais, c'est ça. Et puis nous, généralement, ce qu'on faisait, c'est que une partie, ça nous suffisait pas. Donc on enchaînait directement avec l'année 2. Donc on ouvrait l'enveloppe 2 avec des nouvelles cartes, des nouvelles règles. Ah, votre personnage a évolué. Il sait maintenant faire ça. Il obtient plus de pouvoir si vous utilisez tel type de carte. Donc c'est génial. À partir de certaines années, il y a des nouvelles mécaniques en plus qui apparaissent. Donc non, franchement, c'est un vrai bonheur ce jeu à jouer.
Oui, puis j'imagine que c'est très satisfaisant au bout d'une année d'avoir déjà vaincu et combattu les forces du mal pour
ouais,
une fois.
Ouais. Alors faut pas vous inquiéter, hein. Plus le jeu avance, plus il est difficile.
Elles sont coriaces quand même, ces forces du mal.
Ouais. À partir de l'année 5, il faut s'accrocher. Il y a Voldemort qui arrive. Hein.
Ah, là, là,
il
n'est
pas là pour tondre la pelouse, hein, le mec. Hein.
En plus, on ne doit pas dire son nom.
Ah mince, pardon.
Ah, là, là. Alors, il y a un autre jeu où là, on va changer totalement de thème, hein, puisque le thème d'Harry Potter était bien présent sur le jeu Harry Potter Bataille à Poudlard. Mais là, on va aller sur autre chose, c'est Bubble Stories.
Et ouais, je vais vous parler aujourd'hui de Bubble Stories, parce qu'en février, on a pu voir les nominations aux As d'Or qui sont arrivées. Donc l'As d'Or qui est le meilleur jeu de l'année en France. Hein, j'avais pu chroniquer certains jeux qui font partie de cette liste de nommés 2022. Et j'ai pu aussi vous chroniquer certains jeux qui ont gagné l'As d'Or. Mais aujourd'hui, on va parler d'un jeu pour enfants qui lui est nommé du coup cette année et qui s'appelle Bubble Stories. Bubble Stories, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de storytelling sur table. Alors, qu'est-ce qu'on appelle jeu de storytelling ? En fait, c'est un jeu où quand tu vas le découvrir, ça va te raconter une histoire, tout simplement. Il y a plein de jeux qui existent dans ce thème-là, mais pour enfants à partir de 4 ans, aucun. À part Bubble Stories.
Ça doit être tout mignon.
C'est tout mignon, vraiment. Si je devais vous parler d'un jeu pas du tout mignon par contre, mais plus pour adultes, je vous parlerais de Time Stories, qui est un jeu où on va mener différentes enquêtes sur différentes époques dans le temps. Il y en a une qui va se passer au Moyen-Âge, il y en a une qui va se passer dans les années 20 sur l'Antarctique, il y en a une qui va se passer dans les années 30 dans un asile de fous avec un thème un peu Lovecraft. Donc ouais, thème un petit peu adulte. Et c'est ce genre de jeu qui reste coopératif, mais on va tous faire des choix. Mais quel personnage on va aller voir ? Oh là là, lui, il me fait peur par rapport à ce qu'il m'a dit. J'ai peut-être pas envie d'aller voir ce personnage-là. Je vais aller en voir un autre. Lui, il faut l'aider parce qu'il peut nous aider à ça dans l'aventure. Bref, on est maître de nos décisions dans ce jeu. Et c'est très sympa parce qu'on a vraiment l'impression d'être maître du jeu.
Et du coup, les histoires seront différentes à chaque fois selon nos décisions ?
Exactement. Les histoires seront... Les révélations seront différentes. Exactement.
Un peu comme les livres-jeux, mais version...
Exactement. C'est un livre-jeu, mais version jeu de cartes sur table. Puisque là, en fait, chaque scénario, il y en a 3 dans la boîte de Bubble Stories. Hein, donc, on est sur des scénarios qui vont durer 5 minutes, pas plus. Le principe, il est hyper simple. On va mettre une carte de départ sur la table qui représente un panorama, voilà, et on va étaler toutes les autres cartes sur la table, face cachée. C'est super simple. Imaginons, on a une image d'un salon. Il y aura du coup plein de bulles sur cette image de salon qui seront dessinées. Ces bulles, elles seront sur des objets, par exemple le chat, le coussin du canapé ou sous la table basse. Et bien, si je veux aller voir sous la table basse, je vais regarder sur la table où est-ce que se trouve la carte table basse. Je la prends et je la retourne. Et je regarde s'il y a l'objet que je dois rechercher pour cette mission. Non, il n'y est pas. Donc j'observe, il y a peut-être des éléments qui peuvent m'aider. Non, il n'y a rien. Hop, je recache. Maintenant, je vais aller voir le chat. Le chat, hop, puisqu'il a piqué mon objet. Non, après, je vais aller voir dans le coussin et ainsi de suite. Et c'est un petit jeu comme ça où on va enchaîner les lieux à aller voir. Et ce qui est très sympa, c'est qu'au début, forcément, il va falloir accompagner l'enfant. Parce que c'est un jeu où, une fois qu'on a regardé sur une pièce dans la maison, il va falloir qu'on se remette sur la carte de départ pour aller revoir sur les autres lieux. Donc ça, la mécanique au niveau de l'enfance, cette mécanique de feedback, je dirais de retour en arrière, elle n'est pas forcément facile.
Oui, puis c'est à partir de 4 ans. Donc
exactement. Mais par contre, une fois qu'on y a joué avec lui une ou deux fois, tu peux laisser l'enfant tout seul le refaire. Et en fait, les enfants, ils reprendront plaisir à le refaire tout seul.
Oh, bah
ouais, parce que c'est l'autonomie et ils ont réussi une première fois, donc ils se disent je vais réussir à nouveau et puis je vais encore mieux la faire l'histoire, c'est-à-dire en soulevant encore moins de cartes qui me servent à rien, donc je vais la faire encore plus rapidement possible, c'est tout. Donc vraiment le principe il est tout bête, mais pour 10€ vous avez un petit jeu avec 3 histoires que vous pouvez trimballer partout. Et je trouve ça très très sympa de la part du jury d'avoir nommé un jeu de storytelling pour enfants parce que il n'y en avait pas dans cette gamme-là. Et rien que pour l'originalité, merci au jury. Et en espérant qu'il gagne. Mais moi, je mise une petite pièce sur celui-là. On en reparlera.
Une petite bulle.
Une petite bulle, exactement.
Bien sûr, ça c'est une histoire encore à suivre. Et c'est vrai qu'on en apprend, on découvre vraiment plein de choses tous les mercredis. Comme ce petit jeu qui est vraiment tout mignon et très original. Bubble Stories. Et juste avant, tu as présenté alors un autre jeu qui est Bataille à Poudlard, Harry Potter.
Allez jouer à Harry Potter Bataille à Poudlard, c'est trop bien.
Merci beaucoup, Gislain.
Merci à toi, à bientôt.